En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
On l'a aimé, admiré et célébré trop discrètement pendant longtemps sur trois continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Trop discrètement jusqu'à son prix de littérature de la Nouvelle Académie en 2018 qui la fera rayonner mondialement. Si je vous dis Ségou, la migration des cœurs ou Histoire de la femme cannibale, déjà vous mangez votre transistor car derrière cette rediffusion, vous savez qu'il y a Maryse Condé. Un nom qui aura fait rêver le monde du nomadisme littéraire jusqu'à cette révérence ultime qu'elle a tirée le 2 avril dernier. Née sous le drapeau français dans les Antilles des années 30, cette romancière a vampirisé les identités. Lorsqu'en sol majeur la recevait en 2010, entre ciel new-yorkais et platane parisien, avec de temps à autre des échappées guadeloupéennes, c'est la chercheuse, militante littéraire et romancière métissée qui nous parlait. Quelque chose de son tracé géographique qui la poussait à écrire Les Origines pour mieux s'en débarrasser. C'était l'époque de son 29e roman, En attendant la montée des eaux, chez Lattès, qui me permettait ce... Bonjour Maryse Condé.
Bonjour.
Les mots, vous aimez ça? On est au courant. Et parfois, quand il y a de la musique dessus, c'est bien aussi, on appelle ça des chansons. Est-ce que vous êtes une femme de mots et de musique?
Oui, mais il n'y a pas de différence entre les mots et la musique. Les mots sont une musique. Donc, quand je travaille, par exemple, quand j'écris, il faut absolument que j'ai la musique avec, pour porter mes mots. Donc, finalement, je n'arrive pas à faire une distinction entre mots et musique. C'est des sons harmonieux.
Alors, la première de vos musiques, je ne sais pas si vous écrivez dessus, d'ailleurs, on la doit à Philippe Laville, chanteur français pour nous, chanteur béquet peut-être pour vous, puisqu'il est né à Fort-de-France en Martinique. Vous êtes fan de son collet serré?
Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de chansons antillaises un peu trop, disons, sucrées, sirupeuses. Celle-là ne l'est pas. Elle est rythmée, elle est langoureuse, mais en même temps, elle est vivante. Donc j'aime beaucoup la ville dans cet air-là.
Imaginez que je te reverrai. Tant d'années ont passé, je vois que tu n'as pas changé.
Moi, mon pas de gars si posé, moi t'es qu'elle y parlait pas, moi t'es même oublié, ça m'a t'es qu'à l'ébaucher. Ou à celle vous y a fait moins craquer.
Ou des way,
tchè 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 tchè. Moi t'es qu'elle est résistée. Mais l'amour a des doux. Pas temps pour nous te parler. Coller, serrer, nous te cadencer. Si nous t'es pas temps pour nous te causer. Coller, serrer, nous te cadencer. Si nous t'es pas temps pour nous expliquer. Jamais pensé que je te reverrai. Et pour t'oublier, j'avais tout gâché, tout cassé. Tout ça parlait mon mal parlé. Pas de cas marchandé.
Aïe aïe aïe.
Qu'à des moins jolis. Pas qu'à trouver rien pour dire.
Oula, tout près moins qu'à sourire.
Tcha 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 tcha. Mais ça qu'a pas moins envie.
Riche belle. Prends temps pour nous te parler. Coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prends temps pour nous te causer. Coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prends temps pour nous expliquer. Coller, serrer, coller, serrer.
Philippe Laville et Jocelyne Béroir en sol majeur dans ce collet serré auquel vous vous êtes frotté, Marie Scondé. Il me semblait que vous n'étiez pas très zouk.
Mais je danse très mal et très peu. Mais il y a des fois où j'aime un peu entendre la musique de danse. D'abord des Haïtiens, Karimi, Kéchen Topalou, Tabou Kombo, ce sont mes préférés. Mmh. Mais j'aime un peu, de temps en temps, des airs Godbin et Martin Kay. Je ne suis pas une zoukeuse, pas du tout alors. Je crois que je n'aime pas du tout le zouk. Mais enfin, de temps à autre, ça fait plaisir.
Ouais, c'est une histoire de dosage. En attendant la montée des eaux, c'est donc le titre de votre nouveau roman, Marie Scondé. Et pour ceux qui connaissent votre univers, on retrouve un peu votre obsession de certains paysages et de certaines identités croisées. Hein. Roman polyphonique où on suit trois destins qui jouent peut-être sur trois tonalités. L'empire de Ségou, les sociétés antillaises, oui, et puis Haïti. C'est votre jazz à vous, hein. Vous écrivez en rythme oui. Ternaire presque. Pourquoi mettre en perspective ces trois axes géographiques ?
En fait, je crois qu'un écrivain ne peut pas répondre à une question aussi directe. On a envie de parler de certains lieux, on a envie de parler de certains personnages, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Disons qu'au cours des dernières années, le monde a changé. Pour moi, le monde a changé de forme. Les frontières sont tombées, les races ont disparu. L'origine est devenue un problème. Donc finalement, c'est de ça que j'ai voulu parler. Et comme un romancier ne fait jamais que raconter des histoires, j'ai voulu raconter ce sujet un peu sérieux, un peu intellectuel, peut-être à travers des vies humaines.
Ce sont des histoires qui ne sont pas vraiment innocentes en même temps. Je vais m'arrêter une seconde sur Babacar, c'est votre personnage central. Donc c'est l'enfant d'une Bambara et d'une Antillaise qui vit en Guadeloupe et qui se retrouve très vite, dès le début du roman, avec sur les bras une petite orpheline d'origine haïtienne qu'il va tenter de sauver. Donc là, tout de suite, d'entrée de jeu, on est vraiment dans les frottements identitaires qui vous intéressent, hein, entre l'Afrique, les Antilles. Et tout ça, ça repose sur les épaules de ce Babacar qui se sent apatride. Alors là, ça ne peut pas être innocent, ça. Pourquoi donner une place centrale à cette figure d'apatride ?
Il faut, je crois, pour bien comprendre Babacar, avoir lu un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, Ségou. C'est une affaire de Bambara, de Traoré, très fier d'eux-mêmes, heureux et content de vivre à Ségou, et croyant que leur origine, leur ethnicité était très importante. 20 ans après, Babacar, qui est un dernier des Traoré, qui a une mère antillaise, c'est-à-dire un peu sans patrie, un antillaise un peu quelqu'un qui n'a pas vraiment de généalogie, Babacar met en question toutes ces choses-là. Pourquoi être fier d'être mon parent ? Il vit dans un pays, au contraire, c'est un problème. Il y a une guerre civile. Donc, en fait, En attendant la montée des eaux, est un livre de questions. Les questions qui arrivent maintenant à se poser après avoir eu beaucoup de certitudes il y a 50 ans, 20 ans. Donc finalement, c'est l'évolution du monde, l'évolution de chacun d'entre nous que j'ai essayé de présenter.
Ce que je comprends à travers ce que vous venez de nous dire, Marie Scondé, c'est que vos racines d'auteur antillaise, c'est comme ça qu'on vous présente, se trouvent vraiment à Ségou, au Mali.
Je dis le contraire.
Ah.
Je n'ai pas de racines. C'est un mot qui a été très cher aux écrivains, à tout le monde. Les racines. Il y a eu ce fameux film de Alec Healy et ce livre aussi, Roots. Mais je crois maintenant, les racines, c'est là où vous vivez.
Mm-hmm.
Le lieu où vous êtes, les gens que vous aimez, les gens que vous rencontrez. Donc, on n'a plus de racines. On a simplement des échanges plus ou moins profonds avec ceux et ceux qui nous entourent.
J'ai une bonne nouvelle, puisque vous vivez entre Paris et New York, Marie Scondé, en sol majeur, vous êtes ici chez vous. Et puisque vous aimez les mots, ben on va commencer par le commencement.
A, B, C, D, E, F, G.
G comme généalogie.
Ah oui, ben alors ça c'est un mot intéressant justement, hein, qui oui. tombe à point nommé.
Il y a 20 ans, 30 ans, je croyais beaucoup à ce mot-là. Généalogie. Maintenant, je n'y crois plus du tout. Je pense que ma généalogie, c'est moi. Mmh. Elle commence avec moi et finira avec moi.
Alors, on va s'arrêter sur ce moi, justement, qui m'intéresse tant. Si on revisite votre généalogie, Marie Scondé, autant le faire sur les trompettes d'Aïda, là, qu'on est en train d'entendre. Car dans votre famille et dans votre Guadeloupe des années 50, c'était Verdi et surtout pas la chanson créole.
Je ne dirais pas tout le monde, mais mes parents étaient des Français à part entière. Pour eux, la France, c'était l'idéal. Les valeurs françaises étaient les seules qui valaient la peine d'être retenues. Et finalement, ils n'écoutaient rien, qu'ils soient créoles. Certainement, ils auraient bondi de m'entendre aimer Philippe Laville. Pour eux, pas du tout. Cette musique-là ne vaut rien, n'a pas de sens. Les grandes musiques sont des musiques classiques européennes.
Donc ça allait presque jusqu'au mépris de la musique ou de la culture créole.
Oui. Même un mépris gentil, pas un mépris agressif. Ils étaient des gens très, très bons, finalement. Mais en fait, un mépris, certainement.
Jeanne Kidal, c'est le nom de votre mère que vous avez comparée toute petite. Je crois que c'était dans un compliment que vous lui aviez écrit. C'est une anecdote que vous racontez dans Le cœur à rire et à pleurer. Vous la comparez à une des sœurs Gorgone, la tête couronnée d'une chevelure de serpent venimeux.
Oui, elle pouvait être très méchante. C'était une femme extrêmement intelligente, très changeante. Donc souvent elle était méchante, souvent aussi elle était très bonne. Donc finalement, ce contraste entre une mère qui me caressait, m'idolâtrait et me talochait sévèrement, je crois qu'il a fallu beaucoup de temps que j'arrive à le comprendre, à vivre avec, à dominer.
Le secret de votre mère et de sa personnalité à la fois exigeante et très orgueilleuse, est-ce qu'il faut le chercher du côté de sa naissance?
Je crois que le problème essentiel pour elle, c'était de résoudre son rapport à sa mère. Sa mère était une servante, illettrée, ne parlait pas français, blanche de peau, toute une série de raisons pour lesquelles sa mère la gênait. Elle l'adorait, mais en même temps, la mère lui faisait honte. Et finalement, cette non-résolution de sentiments ont causé finalement sa perte.
Car le problème de la généalogie pour vous commence là. Est-ce qu'on sait quelque chose du grand-père, de celui qui a accompagné celle que vous appeliez bonne maman Élodie donc,
hein? Non, on sait à peine, on devine. On devine qui est le père. On ne l'a jamais su avec certitude.
Donc votre mère va passer sa vie à tirer un trait, je dirais, mais au sens très très large du terme, à tirer un trait sur le passé.
Elle va essayer de commencer une nouvelle vie, non seulement pour elle, mais pour ses enfants. Elle va en finir avec les illettrés, les fauchés sans argent, les malheureux, comme on dit aux Antilles. Évidemment, c'est une forme de reniement, et elle a beaucoup souffert d'avoir renié ceux qui avaient vécu avant elle, mais il fallait ça si elle voulait arriver à s'épanouir. Donc, mais elle n'a jamais pu s'épanouir.
Mais elle a réussi quand même une chose socialement. C'est devenue la première institutrice noire.
Elle a réussi beaucoup de choses socialement, mais effectivement, elle a aussi fermé la porte à beaucoup de choses. Il y avait un problème. La réussite veut dire finalement tourner le dos à beaucoup de choses auxquelles on tient, on devrait tenir et auxquelles on tient secrètement.
Et alors votre père, on n'a malheureusement pas le temps de vraiment l'évoquer, il portait beau, hein, c'est comme ça que vous...
Il était très beau.
Oui, il était beau garçon, beau. Il était un peu peut-être, je ne sais pas, il était coureur, quelque chose comme ça, en tout cas il était banquier. Est-ce que tous les deux, vous diriez qu'ils avaient ce point commun de finalement ne tirer aucun orgueil de leur héritage africain?
Oui, parce qu'ils avaient été tous les deux très, très, très malheureux enfants. Mon père avait perdu sa mère dans un incendie à 7 ans, je crois. Il était devenu un pupille de la nation. Donc, ils voulaient que leurs enfants soient assurés de vivre bien, confortablement, sans les malheurs qu'ils avaient connus. En fait, c'est un choix pour les enfants, pour la suite, pour la succession. Ce n'est pas vraiment un mépris, mais c'est un désir d'améliorer l'avenir.
Ce qu'on peut juste dire, pour rapidement conclure, c'est que la petite fille gâtée, car vous l'avez été malgré tout dans cette famille, m'a répondu.
Je revenais à vous.
Vous n'avez pas
j'assume.
Vous assumez le côté gâté.
Oui.
Vous n'avez pas été élevée dans ce fameux dogme de « Black is beautiful ».
Oui et non. Ma mère admirait beaucoup les Africains-Américains. Elle avait une photo d'une famille américaine où il y avait une série d'enfants qui avaient réussi. Médecins, avocats, pharmaciens, etc. Mais en même temps, paradoxalement, tout ce qui venait de Guadeloupe était considéré comme laid, comme méprisable. Je ne sais pas comment ils arrivaient à concilier l'inconciliable. Ils vivaient comme ça. Et nous avons grandi dans cette espèce de contradiction.
Et cette lignée a produit Marie Scondé. Alors, comme dans la famille, on avait de la religion, hein, comme on dit dans les livres, on écoutait probablement, et il vous en est resté quelque chose apparemment, des œuvres sacrées, comme le fameux Gloria de Vivaldi que vous avez programmé en sol majeur. Pour quelle raison?
Parce que j'aime Vivaldi. Il n'y a pas d'explication. J'aime cette musique-là, c'est tout.
Gloria de Vivaldi sur RFI est dans le programme d'une sorcière de l'écriture, Marie Scondé. Parce que la Dame de Ségou s'est retirée du monde à jamais, le 2 avril dernier, nous rediffusons l'entretien qu'elle nous accordait en sol majeur en 2010. Les lecteurs avisés l'ont souvent surnommée comme ça, la Dame de Ségou. C'était pour dire qu'elle était bien sûr la grande dame de la littérature antillaise. Elle disait écrire non pas en français, mais en Marie Scondé. Je garde l'image d'une séductrice, du monde, né à Pointe-à-Pitre, ayant vécu à Paris, vivant et travaillant à New York au moment de cette rencontre. Oui, une séductrice intransigeante du monde, puisque ses romans se lisent autant en France qu'aux États-Unis, où d'ailleurs elle a enseigné la littérature antillaise. Peut-être qu'on y reviendra dans cette rediffusion. Mais j'aimerais parler une seconde à la présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage, depuis sa création en 2004. Ça, c'est une date symbole qui nous ramène à l'histoire de vos ancêtres, Maryse. C'est intéressant puisque justement, votre famille, on va dire qu'elle a omis de vous parler de cette histoire. Alors, comment vous avez découvert que vos ancêtres n'étaient pas des Gaulois ?
C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais rien dit concernant le passé. Donc, j'ai grandi avec une sorte de méconnaissance, ignorance du passé. Et un jour, je me suis rendu compte que ce passé que j'ignorais traumatisait beaucoup mes compatriotes. Qu'ils étaient malheureux, ils n'arrivaient pas à résoudre le problème des origines et de l'histoire avec un H majuscule. Donc, je me suis dit, si je veux me rapprocher des miens, il faut que j'assume un certain nombre de problèmes. Et un des problèmes est évidemment celui de l'esclavage, de la dispersion aux Antilles, du système de plantation. Et c'est ainsi que j'ai été choisie pour être présidente du comité mémoire.
Mais vous avez découvert cette histoire d'esclavage assez jeune, on va dire peut-être du côté de l'âge de 13 ans. La scène se passe en métropole. Où vous continuez vos études. Votre prof de français vous demande de faire un jour un exposé, je cite, « sur votre pays ». C'est quelque chose qui vous laisse un petit peu perdu. Et vous tombez sur la rue Cazenègre de Joseph Zobel. Et là, c'est la révélation.
Oui, parce qu'en fait, me dire de faire un exposé sur mon pays, c'était absurde.
Oui.
Je ne lisais pas les livres entiers. Je lisais François Mauriac, le Sagouin, que je connaissais par cœur. Donc finalement, j'étais embarrassée. Je suis allée voir mon frère aîné, Guy, et je lui ai demandé que faire. Alors on a essayé d'abord de parler de Bon Dieu rit, un roman haïtien d'Édric Saint-Amand. Mais c'est Haïti, c'est une autre histoire. Alors en fait, il a cherché, et puis il est tombé sur Zobel. C'est le Martinique. La Martinique qui est près de nous. Finalement, je crois que ce livre m'a ouvert les yeux sur la façon dont, finalement, les Antillais vivaient chez eux et comment ils étaient, en fait, privés de tout, même après l'abolition de l'esclavage. Mmh. Et en fait, le grand traumatisme dont mes compatriotes, certains, ne sont jamais remis jusqu'à maintenant.
Et vous qui êtes élevé dans une famille blanchie, vous avez pu, à ce moment-là, à ce moment de la lecture, vous identifier pour la première fois à un petit nègre, à ces petits nègres que redoutaient tant vos parents.
Oui, je crois que c'était une sorte de jeu. Être pareil à quelqu'un, très différent de vous, être assimilé à José, à Sam, c'était pour moi un jeu merveilleux. Et je crois que c'est aussi une façon de comprendre le charme de l'écriture, le charme de créer des personnages différents.
Alors on va se rapprocher maintenant de New York et plus précisément de Brooklyn, puisque votre programme en sol majeur nous emmène maintenant au pays de la tigresse. C'est une certaine Lena Horne qui a fait le bonheur des comédies musicales des années 40 et qu'on va retrouver dans Stormy Weather.
Oui.
C'est une chanson importante pour vous.
Oui, elle m'a servi, je l'ai mise en exergue à un de mes romans. Je l'écoutais tout le temps en boucle, en travaillant. La beauté du chant, le timbre de la voix, un peu désespéré comme ça, un mélange de désespoir et de force. Je crois que c'est ce qui caractérise toute la musique africaine-américaine.
Voilà, et c'est un petit hommage en même temps en sol majeur, car Lena Horne s'est éteinte le 10 mai dernier à 92
oui,
ans.
Oui, oui.
There's no sun up in the sky, stormy weather. my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Lina Horn dans le vagabondage en sol majeur de notre invitée, la romancière Maryse Condé, qui a grandi sous l'œil des amandiers pays en Guadeloupe, rêvé sous les tilleuls parisiens, testé l'arbre à palabre en Guinée pour finalement adopter les écureuils new-yorkais.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Phrase prononcée le 20 janvier 1961 par John Fitzgerald Kennedy lors de son discours d'investiture à la présidence des États-Unis. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors pourquoi ressortir ce vieux discours? Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis vieux, mais il date de 61, Maryse
oui,
Condé.
Oui, mais le problème, c'est pas le discours, c'est Kennedy. Je vivais en Guinée, fermée, complètement fermée à tout le monde extérieur. J'arrive à m'enfuir de Guinée, j'arrive au Sénégal chez une amie avec mes enfants et Kennedy était mort. J'arrive à Dakar le jour où Kennedy a été tué à Dallas. Donc finalement, je découvre un politicien blanc que la Guinée m'avait appris à mépriser, détester. Et j'ai envie de le comprendre. Pourquoi tout le monde pleure ? pourquoi tout le monde, les Sénégalais, sont désespérés. Donc, j'ai commencé à partir de cette date à lire tout ce que Kennedy avait écrit et à essayer de comprendre. Et finalement, j'ai compris. La couleur d'un politicien n'a rien à voir, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Je venais de la Guinée où Sékou est un tyran. J'arrive là et j'apprends que Kennedy, qui est un blanc, avait été un homme extrêmement ouvert, extrêmement tolérant, prêt à aider tous ceux de ma race. On disait race.
Oui.
Alors finalement, c'est pour ça que Kennedy est important pour moi.
Parce que jusque-là, pour vous, le monde était divisé un peu en deux. Il était noir et blanc.
Noir et blanc. La Guinée, c'était
ça. Les noirs étaient gentils, les blancs étaient méchants.
Voilà. Il n'y avait que des méchants blancs. Il n'y avait que de charmants noirs. Finalement, on sait que ce n'est pas vrai.
A, B, C, D, E, F, G.
B comme place.
Alors, il vous a fallu quand même du temps pour trouver votre place, Maryse Condé, sur notre petite boule ronde, pour des raisons différentes. Évidemment, à chaque fois, ni la métropole, ni la Guadeloupe, ni l'Afrique n'ont été possibles. Alors, sur quoi ces impossibles ont reposé ?
Ces impossibles ont reposé sur le fait que la Guadeloupe, la France, l'Afrique, ce sont des pays qui ont des modèles, des normes. Il faut être d'une certaine catégorie sociale pour trouver sa place. En Amérique, il n'y a pas de place, où tout le monde peut avoir une place. La preuve, Obama devient président. Tout petit Américain de 10 ans interrogé rêve un jour d'être président de la République. Donc, je pars de sociétés très fermées, un peu rigide, et j'arrive à une société extrêmement ouverte, extrêmement où tout est possible. Évidemment, non, mais on croit, on s'imagine que tout est possible. Mm. Donc finalement, je trouve ma place sans jamais avoir de place.
Ah ah, vous n'en avez toujours pas.
Je crois que ma place est à l'intérieur de mon cœur, de mon être. Je n'ai pas de place au monde. Oui. Je ne veux pas en avoir d'ailleurs.
Un mot sur votre tentative en Afrique quand même, Maryse Condé. Césaire, lui, prenait le retour en Afrique aux membres de la diaspora noire, mais vous, ce n'est pas pour suivre le concept de la négritude que vous vous êtes retrouvé en Afrique.
J'aurais peut-être aimé qu'on ne parle pas tellement de l'Afrique. C'est un moment très douloureux, une série de souvenirs très amers. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à faire une sorte de partage entre ce que l'Afrique m'a donné, ce qu'elle m'a appris, et ce, évidemment, qu'elle ne m'a jamais donné. Mm. J'ai toujours été considérée comme une étrangère en Afrique, comme Tekla, en attendant la montée des eaux, sorcière qui a des yeux bleus. Là, ce n'était pas le cas, mais j'étais antillaise, je parlais français, je venais d'ailleurs, j'ai jamais eu ma place. Donc c'est un peu douloureux d'accepter cela. Mais il y a autre chose, la fierté peut-être d'être noir, bâtir des choses en commun, être prêt les uns des autres pour un certain avenir meilleur. Mm. Tout ça aussi, l'Afrique m'a appris.
D'accord. Donc vous avez pris ici en Afrique quelque chose. Vous avez tenté aussi de prendre quelque chose en Guadeloupe. C'est un lien un peu compliqué. Vous y avez vécu 22 ans et puis pour des raisons de santé, mais pas seulement, vous avez décidé, Maryse Condé, de vous éloigner. C'est-à-dire que vous avez ressenti qu'en tant que Maryse Condé, vous ne trouviez pas votre place en Guadeloupe.
Voilà encore un problème très, très, très délicat. Disons qu'il y a beaucoup de gens que j'aime en Guadeloupe et qui m'aiment aussi. Mais la majorité des Guadeloupéens ne m'a jamais accepté, ne m'a jamais adopté. J'ai toujours été une étrangère, une terre à porter. Alors évidemment, à la fin...
Vous êtes née à Pointe-à-Pitre, vous venez de là-bas. Pourquoi
oui,
est-ce qu'il y avait ce rejet?
Oui, j'ai vécu.
C'était un rejet culturel?
Oui, mais ailleurs, en Afrique, en Amérique, je revenais toujours de loin, de notre pays. Je parlais mal créole, je ne dansais pas le gros cas, je n'aime pas de zouk. Donc finalement, j'étais perçue comme une mauvaise anglaise. Vous faites que de peine.
Donc, vous avez élu domicile en partie à New York. Vous êtes une antillaise francophone des États-Unis, j'imagine.
Même pas.
Même pas.
Je suis Marie Scondé.
Vous êtes Marie Scondé.
Un peu tout.
Vous êtes bien la fille de votre mère, quand même.
Voilà. Tout ce que vous dites et encore autre chose.
Tout ce que je dis et encore autre chose. De loin, je dirais, et partant de brouillard un peu français, comme ça, on a l'impression que Antillais et Afro-Américains peuvent se retrouver sur un héritage commun. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
Oh, oui, c'est très complexe. Finalement, les Américains, Africains-Américains, ont une histoire, un passé qui n'est pas le nôtre. Finalement, nous ne partageons pas entièrement avec eux. Souvent, nous sommes très différents, très divisés. Mais enfin, on arrive à se rencontrer, à échanger, mais au prix d'un effort terrible.
Il repose sur quoi, cet effort?
La langue d'abord. Nous ne parlons pas américain. Nous parlons américain avec un accent français. Les références de l'enfance. Nous avons grandi quelque part où on chantait Frère Jacques. Eux ont des références très différentes. Ce sont des choses qui paraissent peu importantes. Mais en fait, l'individu, l'être humain, se structure sur des choses qui paraissent peu importantes. Ne croyez pas qu'on se structure sur de grandes idées, de grands problèmes. Pas du tout. C'est des toutes petites choses qui paraissent très secondaires et qui ne sont pas du tout.
Vuole scrivere una lettera ad un amato. In che lingua scrive l'amore? Vous souhaitez écrire une lettre à votre chéri. Dans quelle langue écrivez-vous l'amour?
Vous avez une tête très sceptique, Marie Scondé.
Oui, parce que mon chéri, comme vous dites, est anglais.
Eh oui.
Est-ce que j'écris en anglais? Non. Est-ce que j'écris en français? Non. Je crois que je lui parle à l'oreille, dans une langue qui est la mienne et qu'il comprend.
Une petite parenthèse, puisqu'on parlait de place à l'instant, vous l'avez effectivement trouvé amoureusement aujourd'hui. Après avoir eu un amoureux africain, vous avez convolé avec un Britannique, votre traducteur, Richard Philcox, qui est là dans le studio. Ça veut dire aussi que vous avez choisi l'altérité, Marie Scondé?
Oui, mais ce n'est pas volontaire.
Sans doute, oui.
Oui, un mari.
Enfin, le résultat, il est là quand même.
Quelqu'un qu'on aime vienne dans votre vie. Vous êtes étonnés. Et puis, ils sont là. Il reste là, il faut faire avec.
C'est étonnant, d'autant que vous avez pensé longtemps, enfin je l'ai lu, que vous pensiez que les Noirs devaient rester ensemble et les Blancs ensemble.
Oui, mais il y a 40 ans. Maintenant, je sais que c'est fou. Les gens se rassemblent au-delà des couleurs, au-delà des langues, au-delà des religions, sur des bases que je ne peux pas définir, et vous non plus.
Je ne suis pas là pour ça, en tout cas. Mais vous, Marie Scondé, à propos de cette histoire de langue, la ville que vous aimez bien écouter parler, c'est New York. Vous l'entendez, New York, là?
Oh oui, mais ce n'est pas la voix que j'aime. La voix que j'aime est plus confuse. Il y a beaucoup de sons là-dedans, beaucoup d'onomatopées. Il y a un peu des voix humaines, il y a des voix diverses. C'est un tissu beaucoup plus complexe et composite.
Vous diriez que vous y entendez le créole du monde à New York?
Peut-être, peut-être. Oui, certainement. Une voix qui finalement, que tout le monde peut aimer, que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut parler. C'est important ça. C'est pas une langue qui crée des exclusives. C'est une langue au contraire pour la communication, le partage, l'échange.
Et alors le créole, ce fameux créole guadeloupéen dont vous avez été coupé, qui a été ignoré par vos parents, parce qu'eux préféraient parler,
Français.
Le français.
Oui.
Est-ce que vous l'avez un petit peu récupéré, ce créole?
Oui, bien sûr. Je parle créole, je peux faire un discours en créole. Je suis allée souvent à des émissions de radio indépendantistes où il fallait parler créole et j'y arrive très bien. Mais enfin, ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est le mariscondé.
C'est quoi le mariscondé?
Le mariscondé, c'est une langue qui est faite avec tout ce que j'aime, tout ce que j'ai entendu, tout ce qui m'a influencé, tout ce que j'ai envie de transmettre aux autres. Je ne peux pas le définir, mais en fait, le mariscondé, c'est moi qui le crée, mais je le crée pour le donner et d'échanger avec les autres.
Alors, je ne sais pas ce qu'est le mariscondé. On y trouve en tout cas 5% de créole quand même.
5%, 2%.
Ah, pas plus.
Non, pas plus.
Et le reste, c'est du français-français?
Non, il y a un peu de français, il y a des langues africaines, il y a beaucoup d'américains, anglais, il y a aussi beaucoup d'espagnols. Il y a un tas de choses que j'ai entendues, que j'ai captées comme ça, et qui font un ensemble.
Et cet ensemble, on le doit à une Guadeloupéenne, parce que vous vous définissez quand même comme une Guadeloupéenne, mais outsider, comme vous dites.
Oui, Guadeloupéenne. Si on cherche le lieu où je suis née, où j'ai grandi, c'est la Guadeloupe. C'est indéniable. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui pensent et qui partagent avec moi. Il y en a très peu.
Vous pensez...
C'est dommage.
Oui, c'est dommage.
Oui, c'est dommage.
Vous êtes un peu sur une île
un peu,
solitude et de pensée. Mais c'est ce qui fait mariscondé. C'est l'écriture qui vous permet de régler vos comptes, vos pensées, voire vos dettes vis-à-vis de toutes ces identités.
Oui, mais régler vos comptes, c'est un peu agressif.
Vous diriez ça comment?
Je dirais plutôt qu'il me permet de me trouver, de trouver un peu ce que je suis au milieu de gens très différents et très proches à la fois.
Merci à vous, mariscondé, d'être passé nous voir en sol majeur. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, En attendant la montée des eaux, éditions Jean-Claude Lattès. Et puis, je conseille de relire, c'est très agréable, Le cœur à rire et à pleurer chez Robert Laffont, ces contes vrais de votre enfance qui m'ont bien aidé à préparer cette émission. On va refermer cet en sol majeur avec une page classique, puisque c'est votre dada finalement.
Oui.
Vous avez choisi d'écouter le Requiem d'Anton Dvorak.
Oui.
Important pourquoi?
Que j'adore.
Ah, vous l'adorez, Anton.
Mais je ne sais pas pourquoi on aime.
Je vous pose que des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse.
Oui, voilà. On aime parce qu'on aime. C'est tout.
Un en sol majeur qui rend hommage à Marie Scondé avec cette rediffusion de 2010 réalisée par Thomas Ferrière avec la complicité de Caroline Filliette. Un hommage à retrouver bien sûr à tout instant sur votre appli Pure Radio comme toutes les émissions de RFI. Théo Raison, Yasmine Chouaki, samedi prochain, on trace notre route jusqu'à Emmanuel Wynne. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.